Et vous êtes bien sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Nous sommes prêts pour Tempête sur les planches. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts. Il est 14h. Attention, il n'est pas 13h. Il est 14h. C'est Radio Libertaire. Nous aussi, on passe à l'heure d'été. Hein, aussi anarchiste qu'on soit, on le fait quand même. Et voilà, vous pouvez entre-temps noter un rendez-vous pour vendredi soir à la librairie du Monde Libertaire, dans le 11e arrondissement, 145 rue Amelot. Et là, à 19h, à la librairie du Monde Libertaire, sera présenté l'envolé numéro 56. C'est une revue qui parle des prisons. Et le numéro 56 porte sur la couverture une paire de gants de boxe et le slogan « Il n'y a pas d'arrangement ». Donc l'envolé pour en finir avec toutes les prisons, disent-ils. Et on va débattre du fait que cette revue est censurée dans les prisons. Et voilà, ça va se passer à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, vendredi 31 mars à 19h. Voilà, donc vous êtes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité, de la Fédération anarchiste. Tempête coloniale, non, anticoloniale. Et voilà, on est là pour Tempête sur les planches sur Radio Liberté à 89.4. J'espérais vous offrir un peu de musique en introduction à notre tempête aujourd'hui. Et voilà. Où la première partie va se dérouler autour du Vietnam, plus précisément la guerre du Vietnam, la fameuse guerre du Vietnam. Et les ravages qu'elle a faits, surtout sur la population civile, sur la nature, un écocide par le fameux Agent Orange.
hương vân ê a ca a ê a ê.
Donc un spectacle qui passe en ce moment au Plateau Sauvage à Paris, et le titre est Nos corps empoisonnés, une pièce de Marine Bachelot Nguyen. Sur les planches commence, et là on entendait, selon ce que j'ai pu comprendre, un vieux musicien vietnamien qui chante les souffrances, les douleurs de la guerre, sous la devise « la guerre est une plaie, la paix est une cicatrice », quelque chose de ce genre-là, une cicatrice bien sûr qui reste visible, et qui défigure, bien sûr. Donc, ça en première partie. En seconde partie, aujourd'hui, retour sur Ourika de Claire de Duras. Là aussi, il s'agit d'une histoire coloniale entre la France et le Sénégal. Vous savez, cette fameuse histoire de la jeune sénégalaise, encore enfant, qui a été élevée à l'hôtel de Beauvau, dans la famille de Beauvau, là où il y a aujourd'hui le ministère de l'intérieur, et qui désespère, qui se donne la mort à feu lent, en quelque sorte, parce qu'elle n'arrive évidemment pas à trouver une place ou l'amour qu'elle espérait dans une société encore totalement coloniale, raciste, aristocrate, etc. Même si la révolution est en cours. Donc on avait présenté ça il y a 4 semaines, donc piqûre de rappel en seconde partie aujourd'hui dans Tempête sur les planches. Voilà, et juste pour vous rappeler aussi qu'il y a une souscription concernant Radio Libertaire, parce qu'on a toujours besoin d'aide et de soutien, parce que rien ne se fait tout seul, et tout coûte de l'argent, et de plus en plus. Donc voilà un petit message.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération Anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
Bien, et on va essayer de démarrer la conversation avec non seulement la metteur en scène Martine Bachelot Nguyen, mais aussi avec cette femme à laquelle finalement nous devons l'existence de ce spectacle. C'est elle qui a écrit un livre, c'est elle sur sa vie dans la guerre, c'est elle qui se bat aujourd'hui contre Monsanto et les autres internationales, l'industrie américaine, l'industrie de la chimie, l'industrie qui a livré toutes les substances toxiques qui ont été déversées par les avions et les hélicoptères au Vietnam pour Pour détruire le feuillage des arbres, pour détruire les arbres, pour détruire les paysages, pour que les Vietcong, les combattants, soient plus visibles pour les tireurs américains, pour qu'ils puissent mieux placer leurs bombes, etc. Ils ont quand même perdu la guerre, mais beaucoup, beaucoup de soldats américains, par ailleurs, ont aussi été intoxiqués par l'agent Orange. Mais il reste aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, 3 millions de personnes qui sont empoisonnées. Et pas seulement, je veux dire, au Vietnam, 3 millions, pas seulement juste les personnes qui ont directement été exposées à l'agent Orange, mais leurs enfants et leurs petits-enfants, parce que ça s'accumule dans le corset, dont la nappe phréatique. C'est partout. Et ça continue à créer des malformations à la naissance, etc., etc. Donc, moi j'ai rencontré, j'ai vu le spectacle au Plateau Sauvage. Il y a une tournée au Plateau Sauvage à Paris maintenant. Il n'y a plus de représentation, mais il y en aura d'autres en France, en Bretagne, et puis au Festival d'Avignon. Si, il y en a une, attention, le 6 avril. À Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle, le 6 avril. Là, il reste une représentation parisienne de ce spectacle. Voilà, on va directement au Plateau Sauvage pour l'écouter. Bien, alors là, nous sommes au Plateau Sauvage, théâtre dans le, je crois que c'est le 19e arrondissement, à Paris, rue des Plâtrières. Et le spectacle dont on va parler s'appelle « Nos corps empoisonnés ». Là, il est question d'histoire mondiale, avec Marine Bachelot-Nguyen. Et ben, vous vous intéressez beaucoup aux histoires, à l'histoire du Vietnam, qui est une histoire de guerre, une histoire violente. Vous êtes entièrement ou partiellement vietnamienne?
Alors, moi je suis française, hein, je suis née en France, de nationalité française, mais effectivement d'un père français et d'une maman vietnamienne qui est née au Vietnam. Et c'est vrai que dans mon travail, j'ai vraiment le besoin, la nécessité d'aller explorer ces histoires qui relient le Vietnam et la France et l'Occident. Et donc, un petit peu comme Trantonia, la femme dont parle ce spectacle, est vraiment un trait d'union entre le Vietnam et la France. Voilà, j'essaie aussi dans mon travail de faire ce trait d'union.
Oui, et c'est un spectacle qui nous plonge de façon assez direct dans une histoire très violente, la guerre du Vietnam. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant, nous, on manifestait contre cette guerre, contre cette injustice, contre l'impérialisme américain, qui était quelque chose d'absolument horrible. Et puis, on découvre aujourd'hui, grâce à vous, qu'il existe une femme que moi, j'avais pas découverte avant, qui s'appelle Tran Ton Ga. Et dans l'histoire, son parcours de vie est totalement lié à cette guerre. Elle est victime dans son corps de l'agent Orange, ce poison déversé par les Américains, par l'armée américaine, par les avions et les hélicoptères, au-dessus de la forêt vietnamienne, pour désherber tout le pays, qui est détruit le pays. Et donc, elle mène une action en justice, et grâce à vous, il y a ce spectacle. Alors, comment est-ce que vous deux vous êtes rencontrés, en fait?
Moi, j'ai d'abord rencontré Trantonia à travers son autobiographie, qui s'intitule « Ma terre empoisonnée, France-Vietnam, mes combats ». On m'a offert ce livre, et j'ai littéralement plongé dedans, et puisque Nia a grandi, en fait, sous la colonisation française, du temps où le Vietnam était encore sous colonisation française, a vécu la période d'indépendance, et puis malheureusement, très très vite, la guerre du Vietnam a commencé, puisque après le colonialisme français, comme vous le disiez, il y a eu l'impérialisme américain, et cette guerre absolument tragique et destructrice. Suisse. Et effectivement, outre les bombes, tombaient ces épandages d'agents orange. Donc c'est à travers son livre que j'ai d'abord rencontré Nia. Et puis on a eu l'occasion, par divers rebonds et concours de circonstances, de commencer à s'écrire des petits messages. Et puis après cette période un peu dure du confinement, on a eu l'occasion de se rencontrer en chair et en os chez toi, Nia. Et puis à un moment donné, j'ai formulé à Nia l'envie et l'autorisation de. Je lui ai demandé l'autorisation d'imaginer un spectacle autour de sa vie et de ses combats. Et puis, c'est ça qui a été beau ici, c'est que tu as été présente dans le processus pour nous conseiller, répondre à nos demandes d'interview, filmer et même participer aux enregistrements vocaux de mon texte à la fin du processus.
Oui, et elle est là, c'est ça qui est extraordinaire. Trintonia, bonsoir.
Bonsoir.
Mais merci d'être avec nous, parce que c'est l'histoire du Vietnam du XXe siècle qui est là avec nous, à travers vous, à travers les différentes étapes d'un pays qui s'est transformé, traversé par les puissances occidentales de façon brutale et coloniale. Mais si vous êtes là, ici aujourd'hui, c'est que, comment on l'apprend dans le spectacle, Vous êtes allé à l'école au Vietnam, une école française.
Moi, j'ai grandi au Vietnam et j'ai été dans une école française. C'est pour ça que je maîtrise un peu la langue. Et c'est vrai que depuis mon enfance, j'ai beaucoup aimé la France. J'ai toujours rêvé de venir, mais les circonstances ne me permettaient seulement de venir pour la première fois en France, seulement quand c'est en 92. Et pour Marine, je voudrais, au nom de tout le Vietnam, la remercier, parce que à travers cette pièce là, ce n'est pas Nga qu'elle présente. Mais c'est toute l'histoire du Vietnam, tout le combat du Vietnam, des Vietnamiens, du peuple vietnamien, qu'elle a décrit à travers la vie d'une petite personne, quoi. Donc, pour Marine et pour Angelica, je salue comme les Vietnamiens saluent, respectueusement.
Donc, vous avez écrit un livre sur votre vie, qui est la base du spectacle. Et on peut dire chez qui, chez quel éditeur, sous quel titre?
C'est chez Stock. C'est l'édition, la maison d'édition Stock. Et Stock m'a découverte seulement par Monsieur Broussard Philippe, qui était à ce moment-là journaliste. Mais maintenant, il est rédacteur en chef de Le Monde. Donc, parce que c'est Philippe Broussard qui a écrit le premier article pour annoncer le procès. Et là, il a découvert ma vie. Et alors que je voulais déjà écrire un livre, parce que j'ai vu que l'histoire de ma vie, l'histoire de ma famille, est comme en parallèle avec l'histoire de mon pays. Alors, c'est pour ça que si j'écris mon livre, c'est-à-dire j'écris le livre de mon pays, et je voulais aussi l'écrire, mais honnêtement, sincèrement, sans salir, sans embellir. Et donc c'est pour ça que le livre a été quand même apprécié. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance.
Donc, on traverse par le spectacle votre vie et donc l'histoire du Vietnam avec les guerres, avec la libération, avec toute la souffrance dans les relations personnelles, les naissances. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est très rare toujours aujourd'hui, c'est que cette guerre est racontée du point de vue des femmes. Et c'est pas les histoires de bataille des hommes, ce sont les malformations à la naissance, c'est l'état de la peau, c'est l'état de la nature, ce ne sont pas les lignes de front.
Les femmes vietnamiennes ont toujours, tiennent toujours un rôle important non seulement pour la construction de leur famille, mais pour aussi défendre, protéger son pays, son peuple. C'est toujours comme ça depuis des millénaires. Alors, il y a un dicton chez nous, quand l'ennemi souille notre territoire, chaque femme devient une combattante. Mmh. Oui, c'est ça. Et moi aussi, je suis devenue combattante parce que je suis vietnamienne aussi. Et quand l'indépendance du pays est menacée, là, je suis prête, je suis présente.
Oui. Et curieusement, on vous a quand même reproché de travailler avec l'ennemi à un moment.
Oh, vous savez, c'est la vie. Il y a toujours des bons côtés et puis des mauvais côtés, quoi. Donc, il y a aussi l'affection, les amitiés, il y a aussi la jalousie. Donc, si on se prépare, on se bat pour une bonne cause, alors on peut garder aussi son courage et son calme devant les insultes et même devant les éloges. C'est comme ça que mon combat, le procès, m'a aidé à grandir aussi. Même si j'ai déjà 82 ans, j'ai grandi.
On n'a pas encore parlé de ce procès. On va le faire parce que il s'agit de ce poison qui a été déversé sur les paysages, les forêts, et sur les personnes et sur les animaux, partout, donc au Vietnam. Et les chiffres, je ne me souviens pas, mais ce sont des dizaines de millions de tonnes.
80 millions de tonnes de dioxine.
Et qui sont aujourd'hui dans les corps des Vietnamiens. Ça se perpétue de génération en génération. Et il y a aussi ce procès. Donc c'est très étonnant. Il y a beaucoup de volonté derrière ça, beaucoup d'énergie, beaucoup de force mentale, ce qui est impressionnante, d'aller de voir vous, et ça il faut le dire maintenant, c'est vous-même qui poursuivez en justice les internationales comme Monsanto, qui produisent ce poison, Agent Orange et les autres. Et est-ce que vous pouvez nous dire, juste dans les grandes lignes, de quoi il s'agit exactement, avec ce procès?
Ce procès, c'est un procès civil. C'est-à-dire qu'en tant que plaignante, j'intente un procès contre les firmes américaines. Alors, si c'est un procès civil, on attend l'indemnisation, c'est-à-dire une somme d'argent pour m'indemniser. Mais en vérité, pour nous, ou bien pour moi, ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, parce que l'argent peut-être, c'est-à-dire le procès, peut-être on ne gagnerait pas, parce que les Américains, le gouvernement, et surtout, moi j'attaque les firmes, mais les firmes qui ont aussi participé à la crime de guerre, là, ils n'auraient le courage de reconnaître leur crime. Mais pour nous, pendant ces 10 années de combat, ce qu'on arrivait à faire, là, c'est de faire connaître ce crime-là, non seulement en France, mais presque dans le monde entier. Et j'ai débuté toute seule. Personne à ce moment-là, en France, n'avait même pas entendu parler de l'agent orange. Et aujourd'hui, vous avez vu, là, même je ne peux pas m'imaginer que qu'un de ces jours, Tung Tung est sur scène. Vous voyez? Donc là, déjà, on peut dire qu'on a gagné. Même si après, là, parce que c'est en 2024 que le tribunal d'appel nous donnera ses conclusions. Même si après les conclusions, même si le tribunal d'appel, comme le tribunal de grande instance d'Evry, rejettera encore mes plaintes, mais je considère comme si nous avons gagné. Alors, comme dans la pièce, là, je ne parle plus de « je ». Je dis toujours « nous ». Et c'est notre combat. N'est-ce pas
Oui, effectivement, au-delà du procès, qui est vraiment un procès de David contre Goliath, Nia, face à ces multinationales ultra-puissantes et ses lobbies, et tout ce économico-industriel, politique gouvernementale imbriqué, enfin, voilà, voilà, on est vraiment en plein impérialisme, là. je pense que ce qui est important, et ce qui progresse tous les jours, et à chaque représentation qu'on fait, et à chaque intervention que tu fais partout où tu voyages, c'est la conscience de chacun et de chacune sur ses crimes. Et puis, la combativité que tu nous transmets. Donc, il y a en jeu la reconnaissance de l'écocide, une reconnaissance internationale que ça a été un écocide, que c'est monstrueux, que encore aujourd'hui naissent des enfants avec des malformations, que les maladies se transmettent, qu'il n'y a jamais eu d'indemnisation pour aucune victime civile vietnamienne. C'est complètement dingue, cette histoire. Donc, l'enjeu de la reconnaissance, l'enjeu de la connaissance, et puis, je pense, l'enjeu de la transmission de la combativité, du militantisme, de ne jamais désespérer et d'oser s'opposer à des monstres ultra-puissants.
Il ne peut pas, là, tellement s'agir d'argent, parce que tout l'argent du monde ne suffirait pas pour combler ce qui s'est passé. Simplement, c'est vrai qu'on l'avait oublié, on est un peu naïf par rapport à, face à ces poisons, cet agent orange, comme les Vietnamiens, qui ne pouvaient pas vraiment comprendre ce qui leur tombait dessus, littéralement. Et nous, je me souviens, j'avais très explicitement et très clairement entendu parler des ravages de la stratégie américaine de désherber les forêts et de l'effet de l'agent orange. Seulement, on l'a oublié et on découvre aujourd'hui, avec votre spectacle, que le corps n'oublie pas. Nous, les cerveaux, nous, on avait oublié. Les corps des Vietnamiens n'ont pas oublié.
Ça, c'est le crime de la guerre chimique, parce que l'agent orange tue encore jusqu'à la fin des lignées familiales. Voyez, donc ça ne s'arrête pas. Par exemple, moi, je suis victime de la première génération. J'ai transféré mes maladies à mes enfants. Et mes enfants ont déjà transféré leur maladie à leurs enfants. Et ça continue comme ça. Alors, si on ne fait plus d'enfants, alors la lignée familiale s'arrête. Si on continue, bien sûr, c'est la vie. Même les victimes sont des humains. Donc, ils ont besoin de tendresse, de famille. Donc, ils ont besoin aussi de procurer, hein?
procréer.
Alors, mais si c'est comme ça, le drame continue jusqu'à la fin, quoi. Alors, c'est pour ça que au tribunal d'opinion, pour l'opinion internationale en soutien des victimes de l'agent orange, j'ai dit que le crime de l'agent orange, c'est l'extermination des lignées familiales. Et là, c'est un crime que les firmes américaines ne pourraient pas refuser, renier, quoi. Voilà, mais ça va continuer.
Et puis, il y a aussi une lutte, je m'en souviens là, en France et ailleurs, justement face à Monsanto, par rapport aux OGM, je crois. Hein? Et quand on revient à cette histoire-là, ça laisse apparaître cette histoire des OGM aussi sous un autre jour. Bien grave. Et puis on a quelques extraits ou quelques représentations, quelque chose qui représente dans le spectacle et bien justement ce procès. Et on a un petit aperçu du cynisme des avocats et de ces entreprises multinationales et de leurs avocats qui vous reprochent à vous carrément d'être en bonne santé, plus ou moins, ou d'avoir encore le sourire, ou d'avoir encore un peu de joie de vivre, en vous disant que voilà, si vous arrivez encore à sourire, c'est que vous n'avez rien à leur réclamer, en somme.
Oui, parce que c'est parce qu'ils voulaient ma mort que je vis, et je suis toujours vivante, quoi. Bon, mais c'est ça l'esprit de combativité, et c'est aussi pour que justice peut-être un jour serait rendue pour nos victimes de l'agent orange, parce que vous savez que pour le moment il n'y a que moi qui rassemble les conditions pour pouvoir faire ce procès, donc je le fais, et c'est pour ça que nos avocats ont dit que ce procès est un procès unique, historique et politique. Unique, c'est vrai. Historique, c'est vrai. Mais quand la politique joue encore dans la justice, alors là, il faut se battre. Il faut se battre. Et je ne pense pas que... Non, je pense que si tous nos amis m'aiment et me soutiennent, il y a quand même que certains qui veulent aussi ma mort, quoi. Alors c'est pour ça que je ne mourrai pas.
Ce que vous dites sur la question de la victime, on attend souvent des victimes qu'elles soient passives, qu'elles soient, qu'on puisse les prendre en compassion, et que, enfin, sur tout type de personne opprimée, quelle que soit l'oppression qu'elle vit, on veut bien que cette personne soit dans une position de victime, qu'on puisse l'aider, la secourir, lui faire un petit don. Mais quand les victimes prennent la parole, parlent en leur nom et disent non, non à l'oppression, non au crime, là, en fait, il y a un premier mouvement de « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Normalement, on te veut passif, on veut être dans un rapport humanitaire avec toi. Mais moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est quand les victimes prennent la parole, entrent en politique, portent des combats, et c'est ça qui est extrêmement beau chez toi, Nia. Merci. C'est que tu le fais aussi avec ce sourire, avec cette générosité, avec cette conscience du collectif, qui est aussi, je pense, une formation, je dirais humaine, mais bon, il y a aussi, on parle dans le spectacle de ta formation politique, formation communiste. Alors on peut dire effectivement beaucoup de choses, des crimes, des excès ou de la mise en œuvre du communisme dans plusieurs pays, dont le Vietnam, qui n'ont pas forcément été à l'image de la beauté de l'idée et de l'idéal. Mais en tout cas, ce sens du collectif. Et de la lutte. Moi, j'aime beaucoup l'entendre dans ton parcours. Pour moi, qui suis d'une génération où j'ai grandi en France, dans la paix, où j'ai entendu parler de toutes ces guerres de plus loin. Je trouve que c'est très intéressant, en fait, comment se construit un corps de combattante, un corps de militante, une âme de combattante et de militante, et puis qui traverse tout ça et qui est victime de tout ce qui s'est passé.
Non, mais depuis l'enfance, j'ai grandi avec cet esprit. C'est l'amour pour la patrie et l'amour pour le peuple. C'est ce que ma mère m'a transféré. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, je pense que je ne vis pas que pour moi. Parce qu'avec moi, il y a toujours ma mère, il y a toujours ma fille décédée. Et il y a aussi tous les amis qui ont perdu leur vie, qui a leur jeunesse en combattant. Alors c'est pour ça que si vous me demandez où est-ce que je prends ce courage-là, c'est tout d'abord tous les disparus qui sont toujours dans mon cœur. Et aujourd'hui, c'est tous les amis qui m'entourent, qui me soutiennent. C'est une force terrible que je pense que les firmes américaines ne pourraient jamais me battre.
Mais il faut voir ça autrement aussi. C'est un procès politique, effectivement, parce que si les multinationales perdent le procès, bon, ils sont très riches, mais pas assez riches pour indemniser le monde entier. Et non. Ce qu'il nous faut, c'est remettre en question l'existence même de ces multinationales, de ces industries, et interroger ce que ces industries font à l'humanité, c'est là qu'il y a le grand danger pour elle. Et puis, et j'ai vu, on voit, c'est un spectacle documentaire, hein, donc on va y venir aussi, parce qu'une superbe comédienne aussi, il faut qu'on parle d'elle aussi un petit peu, mais justement, il y a des photos aussi, il y a des photos de votre enfance, je suppose, mais aussi des photos récentes de manifestations à Paris. Justement, il y a eu, et il y en aura peut-être, mais il y en a eu quand Une manifestation au sujet de l'agent Orange et Monsanto, des manifestations pour soutenir votre lutte.
Il y a des photos au Trocadéro, là, après le 21 janvier, et il y a aussi au mois de mai, avant la pandémie. C'est la marche contre Monsanto.
Juste après la pandémie.
Ah oui, parce que là, la dernière photo, la dernière image, c'est là, c'est pendant la marche contre Monsanto.
En 2021.
Ouais.
En 2021. Effectivement, tous les ans, il y a à peu près au mois de mai, il y a la marche contre Monsanto qui regroupe plein de militantes écologistes. Et on parle aussi bien de l'agent orange que du chlordécone, que des glyphosates, que des OGM, etc. etc. Puisque, comme le dit l'avocat de Nia, Monsanto est un récidiviste, un sérieux empoisonneur. Et puis, effectivement, il y a eu plusieurs manifestations de soutien, effectivement, au Trocadéro. Donc, c'est un combat toujours actuel et qui est aussi porté par toute une jeunesse. Et c'est ça que je trouve très, très beau. C'est très important au Vietnam, le lien intergénérationnel entre les anciens et les jeunes. Et je trouve que ton combat incarne aussi ça, ce lien avec les jeunes générations. Et...
Oui, on avait déjà, dans notre émission à Radio Libertaire, on avait déjà parlé du chlordécone aux Antilles, à la Martinique. Mais j'avais oublié le glyphosate. J'avais oublié celui-là. Il y a l'amiante et tous les autres aussi. Bon. Oui, mais il y a un spectacle. Oui. Alors voilà, le spectacle est superbe. La comédienne, elle porte le livre superbement. Donc, parle-nous juste un peu d'elle.
Oui, alors Angelica Kiyomi-Tisser-Sekine, donc c'est une comédienne française d'origine japonaise et vietnamienne, qui elle aussi mêle plein d'histoires, qui a à peu près 26 ans, l'âge que tu avais vers la fin du maquis, je crois. Et moi, je l'ai rencontrée parce que je l'ai vue jouer dans des spectacles d'Eva Doumbia. Elle a fait l'école de Cannes, l'école de théâtre de Cannes. Et puis, c'est une comédienne formidable qui, quand elle a commencé à s'imprégner de la vie de Nia et qui, comme moi, a été extrêmement impressionnée de te rencontrer, parce que maintenant, on se connaît bien, mais les premières fois, on est un peu mou. Et qui s'est investi, oui, pleinement dans porter l'histoire de jeunesse, d'enfance de jeunesse, et puis d'âge adulte et du procès de Nia. Et qui a une formation aussi de danseuse. Je crois qu'on le voit dans le spectacle, qu'elle a quelque chose de très beau et de très fluide aussi, et dans la parole et dans le corps. Et donc c'est un immense plaisir de travailler avec Angelica. Et puis tu as validé le fait qu'elle te ressemble.
Oui, c'est vrai qu'on se ressemble quand même un peu là.
Et puis ça doit faire quelque chose de voir, bon. De se voir incarner comme ça sur un plateau.
Non, mais je lui suis très reconnaissante parce qu'elle a joué son rôle, ma vie, mais avec toute sa, comment dirais-je, toute son énergie et puis toute son affection aussi pour une personne. Donc, elle est une vraie Nga, quoi. Même plus vraie que Nga.
Est-ce qu'il y a quelque chose comme un comité ou un site internet ou quelque part où on peut trouver les informations, où on peut suivre votre lutte, votre procès contre Monsanto?
Mais je suis toujours là, en France, et vous pouvez m'appeler quand vous voulez, je vous donnerai, ou bien vous appelez Marine, maintenant qu'on est devenu très très proches, alors elle a toutes les informations.
Ce que je peux dire, moi, c'est qu'on peut trouver sur le site du collectif Vietnam Dioxine des informations, notamment sur des crowdfunding par rapport au procès, puisque même si les avocats travaillent bénévolement, il y a quand même énormément de frais de traduction, de frais annexes. Donc régulièrement, il y a l'association d'amitié franco-vietnamienne et le collectif Vietnam Dioxine organisent des crowdfunding pour aider à financer ce procès politique, historique et symbolique. Il y a actuellement un lien. Et je pense qu'il faut aussi suivre ce que fait Nia au Vietnam, puisque Nia, tu es en train de monter des ateliers de formation pour des victimes de l'agent orange dont les parents un jour disparaîtront et ne pourront plus s'occuper d'elle et d'eux. Donc tu contribues à ce que ces jeunes aient des formations professionnelles de manière après à pouvoir gagner leur vie. Et ça, je pense qu'il faut suivre ça de près.
Parce que je ne veux pas rester à attendre le bon vouloir du tribunal et puis des juges, parce que ça va encore continuer des années et des années. Mais là, c'est pour ça que tant que je suis encore en vie, là, je voudrais quand même demander à tout le monde de s'associer à moi pour faire quelque chose de concret pour les victimes de l'agent orange. Parce que si vous les rencontrez, vous verrez que à côté de leur souffrance et de leur douleur, c'est le courage admirable. C'est pour ça que moi, j'ai si le procès est mon dernier combat. Alors, mon dernier rêve, c'est offrir quelque chose pour qu'ils puissent gagner leur vie dignement. Donc, les former une profession, un métier, selon leur handicap. Et comme ça, quand ils auront un métier, ils pourront vivre avec ce métier. Alors, pendant ces 6 mois passés, je parcourais aussi tout le Vietnam pour voir où est-ce qu'on a besoin. Et on arrivait avec la participation de tous les amis. On arrivait déjà à installer 3 ateliers de production d'encens, par exemple. Une classe de formation de couture et offrir 60 chaises roulantes. Et on va continuer. Alors, si j'arrive à avoir encore d'argent... Alors, il y a déjà 3-4 projets qui nous attendent. Donc, restez avec moi et participez aussi à notre projet. Parce qu'on parle du crime. Là, il faut le faire, il faut continuer à le faire. Mais aider concrètement, ça aussi, c'est notre mission, je pense. Oui, voilà.
Et d'ailleurs, les droits de représentation, les droits d'auteur, les droits de représentation du spectacle sont partagés entre moi et Nia et sont reversés au projet des ateliers de formation de Nia, qui est une façon concrète aussi d'aider et de soutenir les victimes.
Bon, on l'aura compris, c'est nos corps empoisonnés, c'est un des spectacles les plus importants de l'année, des années à venir. Bravo, grand merci, bravo pour tout votre courage, pour vos combats, pour vos luttes, et bonne continuation. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Si nous descendons la rue en chantant notre drapeau rouge dans le vent, c'est pas seulement c'est le printemps, mais c'est qu'il est bien vivant. À la bourse, l'argent produit de l'argent, et pourtant le chômage s'étend. Prenez garde, bonnes gens, pendant qu'il est encore temps. Prenez garde, bonnes gens, pendant qu'il est encore temps. Ils construisent l'Europe des marchands, Euro Disneyland en avant.
Bon, C'est Thomas d'Hambourg dans Tempête sur les planches, Radio Libertaire 89.4, la voix de la Fédération anarchiste. Et voilà, j'ai pris Joli Môme avec La Lutte en chantant parce que ça correspond tellement bien à Tran Tonia, qui est absolument incroyable, comme il disait, 82 ans, et une énergie lumineuse, un sourire, quelque chose de totalement épanoui. Et pourtant, alors quand on entend le récit de sa vie dans ce spectacle, Nos corps empoisonnés, avec les tragédies qui lui sont arrivées, on se sent tout petit, et en même temps la vie est quelque chose de formidable, d'incroyable, quand après on rencontre une personne pareille. Voilà, et alors ce spectacle sera encore à Paris le 6 avril à Paris 3, Sorbonne Nouvelle, et ensuite le 11 avril au Théâtre du Chant au Roi à Guingamp, et le 14 avril au Festival Mythos à Rennes, et les 2 et 3 mai au Festival Eldorado au Centre Dramatique National de Lorient, et puis au Festival d'Avignon dans le Off à la Manufacture du 7 au 24 juillet. Et à cette occasion-là, il se pourrait bien qu'on revienne là-dessus. Et on va écouter Colette Magnier là-dessus.
Vietnam 67, Vietnam 67, Vietnam 67, Vietnam 67, je ne m'interroge plus sur le sexe des anges. Vietnam 67, Van Tien Dung m'a dit, viens, donne-moi la main, tu verras, ici c'est la guerre des vélos. Alors camarade, ton vélo est renforcé. Alors camarade, avec 300 kilos de vivres et munitions, tu vas pouvoir nous ravitailler. Mes camarades, tous les ponts sont coupés. Oui mes camarades, la nuit dernière on les a tous remplacés. Nous ne nous laisserons pas intimider. Il y a bien longtemps, pour l'air sage du matin. Il y a bien longtemps, pour les repiquages du soir. Nous étions deux dans la rizière, mais une nuit, mon mari fut emmené avec 400 000 hommes et leurs bombardiers, avec 400 000 hommes et leurs gaz toxiques. La défaite militaire suivra l'échec politique. Nos paysans dressaient les abeilles sauvages au combat. Nous sommes toujours là. Alors maintenant, Mara, les accords de Genève. Alors maintenant, Mara, vous n'avez donc rien à en faire. Ho Chi Minh vous l'a dit. Nous ne nous laisserons pas intimider. Vietnam 67.
Continue sur Radio Libertaire, Trompette sur les planches avec Thomas d'Hambourg. Et moi j'ai vu le spectacle Nos corps empoisonnés au théâtre Les Plateaux Sauvages dans le 19e, dans le 20e. Oui, j'avais dit au début de l'interview, je m'étais trompé déjà. C'est dans le 20e, pas dans le 19e, voilà. Mais bon, la programmation était bien courte, c'était du 20 au 25 mars. Moi j'ai vu ça mardi dernier. Et il y avait une petite interrogation de leur côté, puisque hier soir, ils attendaient l'ambassadeur du Vietnam, et notre grande combattante et autrice Tran Tonya se demandait bien ce qu'il allait se passer quand l'ambassadeur arriverait, parce qu'ils veulent bien aussi, ou elle, pardon, elle veulent bien jouer le spectacle au Vietnam aussi, sauf que il se pourrait bien qu'il y aurait un peu de censure, puisque mais le gouvernement vietnamien, la révolution est aussi critiquée dans ce spectacle, parce qu'il y a aussi les purges après, une sorte de terreur, comme après la révolution française qui a eu lieu au Vietnam aussi. Donc, qu'est-ce qui allait se passer? Moi, je n'y suis pas retourné pour savoir. Elles vont nous le dire un de ces jours. Est-ce que le spectacle pourra se jouer tel quel au Vietnam, vu que le Parti communiste n'y est pas épargné par les critiques? Voilà. Mais avant tout, elle se bat contre les multinationales américaines, contre Monsanto, etc. Donc, ce qu'elle nous a dit là, c'est le comité Vietnam Dioxine, comité Vietnam Dioxine, qui regroupe cette lutte. Voilà. Et maintenant, on va entamer la seconde partie de la tempête d'aujourd'hui, et on va s'occuper d'Ourika. Alors, Ourika, adaptation du roman de Claire de Duras, se joue au théâtre Darius Milhaud, et ça c'est dans le 19e, là on est dans le 19e arrondissement, et l'adresse est 80, allée Darius Milhaud, se joue tous les mardis à 19h, ce qui fait que ces derniers temps, tous les mardis, il y a eu des grèves, les gens n'ont pas pu prendre le métro pour aller au théâtre. Il faut descendre à la station Porte de Pantin, ligne 5 du métro, et quand le métro est en grève, il est effectivement un peu difficile d'y aller, de rentrer. Donc je suppose que beaucoup d'entre vous qui ont peut-être écouté La Tempête sur les planches du 26 février n'ont peut-être pas pu y aller, et d'autres n'ont peut-être pas pu écouter le 26 février. Donc on va réécouter, puisque ça joue encore jusqu'au 25 avril, tous les mardis à 19h au théâtre Darius Milhaud, mais cette histoire autour d'Ourika. Tempête sur les planches, pour parler d'Ourika. Ourika, c'est quelqu'un qui arrive, qui s'en va, qui revient, et c'est toujours un grand plaisir de la retrouver, et de retrouver le spectacle, ce qui s'appelle tout simplement Ourika. On va vous expliquer de quoi il s'agit. Ourika, mis en scène par Elisabeth Tamaris, interprétée par Marie Plateau, avec l'aide, je ne sais pas laquelle, mais il y a une éminence grise derrière tout ça, qui s'appelle Alain Fichou, qui est avec nous et qui peut nous renseigner aussi, parce qu'il y a plein de couches là, qui parlent de la littérature de différentes époques et d'une révolution, du colonialisme, etc. Alors, Elisabeth, tu nous racontes un peu, tu nous introduis en la matière. Qui est Ourika?
Qui est Ourika? Ourika, c'est une jeune fille, il y a la vraie Ourika, la véritable Ourika, c'est une jeune fille qui a été sauvée de l'esclavage toute jeune par un aristocrate français qui était gouverneur du Sénégal à la fin du XVIIIe siècle. Et il en a fait cadeau à sa tante.
Oui, parce que maintenant tu peux dire elle est devenue un cadeau, alors oui, sauvée de l'esclavage. Bon, c'est-à-dire, c'est mieux d'être un cadeau que d'être acheté?
Non, justement, il y a un moment, tout d'un coup, elle a été un cadeau, mais elle se dit, est-ce que j'ai pas été un jouet qu'on a offert à quelqu'un ? C'est tout, le problème est là. En fait, le mot cadeau, avec le mot jouet, fonctionne très bien. C'est-à-dire qu'elle se rend compte, elle est élevée comme si elle était la fille de cette femme, de dans la famille de Beauvau. Le plus drôle de l'histoire, c'est qu'en fait, elle a été élevée au ministère de l'Intérieur actuel, puisque c'est l'hôtel de Beauvau, dans cette famille. Et un jour, elle se rend compte qu'elle a la peau noire, qu'elle est noire, et donc elle ne pourra pas avoir la vie pour laquelle elle a été vraiment élevée et dans laquelle elle brille sur tous les tableaux, et pour laquelle elle est très douée. Donc, c'est une espèce d'impasse radicale dont elle prend conscience. Voilà.
Ah oui, Elisabeth, toi, tu connais très bien la littérature française et l'histoire, etc. Donc, finalement, l'hôtel de Beauvau a été le lieu où elle a vécu, où elle a grandi. C'est quand même extraordinaire. Pas sûr qu'elle se rendait totalement compte de tout ça. Mais, alors, Ourika... est devenue littérature, de quelle manière ?
Alors, c'est une femme de l'aristocratie, toujours, enfin, une amie de Chateaubriand, de Madame de Staël, de Benjamin Constant, qui avait un salon littéraire, qui était très brillante et qui a eu beaucoup de difficultés relationnelles dans sa vie, en particulier avec Chateaubriand, qu'elle aimait en secret. Et à un moment, elle s'est retirée dans sa province. Et elle a décidé d'écrire. Et la première idée qu'elle a eue pour écrire, c'est raconter l'histoire d'Ourika, dont elle avait entendu parler et dont on suppose, j'en suis pas sûre, mais je crois qu'elle l'avait peut-être qu'elle l'avait rencontrée. Parce qu'Ourika est morte très jeune, elle est morte à 16 ans. Donc.
Alors, pour préciser un petit peu, est-ce que quand Madame de Duras a écrit le roman, est-ce que Ourika était encore vivante ou est-ce qu'elle était morte ?
Non, non, elle était morte. Elle l'a écrit peut-être 25 ans plus tard. C'est-à-dire qu'Ourika est morte pendant la fin de la Révolution, vers la fin de la Révolution, enfin, avant la prise de pouvoir par Bonaparte, en fait, à cette époque-là. Et elle a écrit, elle, dans les années 1820. Et elle l'a publié, elle l'a fait lire en 1823 à tous ses amis qui lui ont dit « Mais c'est une merveille, ce roman, il faut absolument le publier. » Donc la première édition est 1824.
Est-ce qu'on sait quelque chose de par quel biais l'autrice a eu connaissance de cette histoire ?
Par amitié. En fait, elle connaissait la famille de Beauvau dans laquelle Ourika avait été élevée. C'est une histoire qui se racontait. Et qui avait beaucoup frappé toute la société de l'époque. Mais surtout, c'est l'œuvre de Claire de Duras qui a rendu Ourika célèbre. Et c'est devenu vraiment une célébrité.
Alain, je sens que tu as quelque chose à nous dire.
On va peut-être rebondir sur deux ou trois points là. Alors c'est vrai que c'était une époque un tout petit peu particulière parce que on ramenait un noir, une noire d'Afrique comme on ramène un bibelot des vacances. Alors il faut préciser que l'aristocrate en question, il avait quand même une dimension un peu humaniste.
Oui.
Hein? Alors ça, c'était quelque chose d'un peu particulier, ce qui n'existait pas dans tous les cas. Maintenant, par rapport à l'hôtel de Beauvau, alors il se trouve qu'on a été voir à l'hôtel de Beauvau. Alors il ne faut pas oublier que l'hôtel de Beauvau, aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur. Alors, on a failli retrouver quelques traces d'Ourika, très peu. En même temps, l'hôtel de Beauvau, on s'est aperçu que c'était plus un lieu de police qu'un lieu de littérature. Hein. Et quand même, en grimpant dans les étages, on s'aperçoit que les couloirs, ça ouvre quand même pas à la littérature. Hein. Donc... C'est vrai qu'on pensait, parce que le préfet de police de l'époque, il avait quitté Beauvau, celui qu'on pensait trouver, c'était M. Collomb, qui lui était, je crois, agrégé de littérature.
De lettres,
oui. Agrégé de lettres. Mais à l'époque, il n'était plus là. Et donc, la seule chose qu'on a vue à Beauvau, ce n'est pas Ourika, mais c'est un poulailler qui était au fond du jardin, Voilà. Et il semblait que tous les matins, les œufs de ce poulailler étaient déplacés et transportés vers l'Élysée. Voilà. Ce sont les œufs du président. Voilà. Ourika nous a conduit aux œufs du président.
Alors, Marie Plateau.
J'ai été à l'hôtel de Beauvau et il y a quand même une antichambre et le salon qui est le bureau du ministre de l'Intérieur. Et dans l'antichambre, dans cette petit boudoir, il y a quand même une plaque où on parle d'Ourika. Donc elle est quand même citée, voilà. Et quand moi je suis rentrée dans le bureau donc du ministre, il y avait cette grande fenêtre qui donnait sur le jardin, et j'ai pu imaginer à un moment donné où pouvait se trouver ce fameux paravent derrière lequel Ourika a entendu une conversation où elle a appris en fait là dans cette conversation qu'elle était noire, quoi. Et c'était très émouvant, vraiment quand même très émouvant, voilà. Ça c'est
parce que cette histoire, c'est c'est une tragédie,
oui.
Hein, c'est une tragédie, et ça commence par le fait qu'elle entend une conversation personnelle par coïncidence, et ça déclenche tout, n'est-ce pas?
Oui, elle est heureuse jusque-là, elle est heureuse, elle vit aimée, même adorée, adulée par Madame de Beauvau, qui la considère comme sa fille, qui l'élève en tout cas comme sa propre fille. Et puis un jour, elle est derrière un paravent, elle est en train de dessiner, et puis elle entend, on annonce une amie de Madame de Beauvau qui vient voir Madame de Beauvau, et elle entend cette conversation. Une conversation entre elles deux, entre la marquise d'E et Madame de B, Madame de Beauvau, et la marquise d'E faisant comprendre à Madame de Beauvau qu'elle fait peut-être une erreur en élevant cette petite noire comme sa propre fille, en lui donnant cette éducation parfaite alors qu'elle est noire et qu'elle n'a aucun avenir, qu'on ne pourra pas la marier parce qu'en plus elle bénéficie d'une éducation qui fait que vraiment personne ne voudra d'elle et qu'elle sera très malheureuse, et elle comprend que donc sa vie va être très difficile, quoi, à ce moment-là.
Oui, dans cette société-là, elle est dans l'impasse. Oui.
Elle n'a pas conscience d'être noire. Elle a conscience d'être noire à partir de l'épreuve du paravent.
Oui,
ça, c'est une épreuve fondamentale.
Et justement, ça, c'est cette épreuve, c'est la part romanesque. Évidemment, on ne sait pas comment ça s'est passé pour la véritable Ourika. Probablement, elle a pris conscience petit à petit. Mais c'est vrai que tous les témoignages qu'on peut entendre, même aujourd'hui, il y a énormément d'artistes, etc., de gens qui disent j'ai compris que j'étais noire le jour où j'étais à l'école, le jour où j'étais... C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose d'extérieur qui, tout d'un coup, fait prendre conscience de la différence. Et la différence qui sépare.
C'est l'épreuve. Là, je lisais dans la presse ces jours-ci qu'il y a une recrudescence sans pareil, oui, d'événements et de situations racistes. Oui. Alors, il y a le racisme au quotidien, banal. Et puis, il y a les événements plus tragiques, à savoir le gars, la fille qui cherche du boulot, qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il est noir, il est refusé, la personne qui cherche un appart et on n'en veut pas, etc., etc. Et en ce moment, il y a vraiment une recrudescence de toutes les formes de racisme, que ce soit contre les noirs, contre les juifs, contre toute forme de différence, les handicapés, etc. C'est...
Oui. Oui, c'est... Alors c'est assez révoltant. Oui.
Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir, quand on lit le texte de Claire de Duras, qui est quand même un texte d'une époque romantique, c'est... Elle a eu une lucidité, c'est-à-dire qu'elle en parle comme on en parlerait aujourd'hui. Et pas du tout comme la littérature romantique a pu développer toutes les descriptions et de des noirs ou des personnages différents, etc. Quand on lit Victor Hugo, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Or, Madame de Duras, elle a eu une conscience de ce que ça pouvait représenter, probablement parce qu'elle s'est projetée dans le personnage, à cause de ce qu'elle avait souffert elle-même de sa propre différence, de sa difficulté à s'intégrer dans la société dans laquelle elle avait soi-disant triomphé.
Et donc l'écriture de ce roman, c'est une histoire où on trouve ce qu'on appelle une première fois, oui. En quelque sorte, oui. À plusieurs niveaux. Donc apparemment, c'est la première fois qu'elle a écrit un roman, oui. En parlant de Claire de Duras. Oui. Et puis, c'est la première fois que... qu'on donne un premier rôle, un personnage principal qui est quelqu'un de noir, dans la littérature française, c'est ça.
La première fois qu'elle entre dans une conscience noire. Enfin, que quelqu'un, qu'un écrivain occidental entre dans une conscience noire, et elle le fait avec une lucidité, une clairvoyance qui fait que quand on entend ça aujourd'hui, on peut l'écrire aujourd'hui. Enfin, il y a une subtilité, il y a une complexité dans son analyse et dans les analyses d'Ourika, parce qu'en fait, c'est un roman dans lequel elle analyse sa propre situation au fur et à mesure qu'elle la découvre, et cette analyse est absolument universelle. Enfin, toute différence peut s'exprimer à travers Ourika. Et c'est pour ça que c'était si intéressant d'être porté au théâtre, parce que tout le monde peut s'y reconnaître d'une certaine façon. Et c'est pour ça aussi que moi, je tenais beaucoup à ce que ce soit Marie qu'il joue en tant que comédienne métisse. Bon, parce qu'elle a sa propre spécificité. Mais ça aurait pu être, je ne sais pas... je pense que tout le monde peut retrouver quelque chose de soi.
Bien sûr, parce que cette histoire d'exclusion, de non-porosité sociale, etc., de la société, c'est une histoire qui frappe tout le monde, qui est différent, qui est une minorité. Elle vient d'Afrique en raison de l'époque à laquelle ça se passe, etc. Mais l'histoire, si ça pourrait se passer ailleurs, à un autre moment, ça pourrait être une arabe, une chinoise. Bon.
Tout à fait. Une femme aussi.
Elisabeth, excusez-moi, d'ailleurs, c'était le handicap, ça m'a un peu troublé. Oui. Mais je voudrais revenir sur ce que dit Elisabeth sur une notion très importante, c'est la notion d'analyse. Parce qu'en même temps, dans ce texte, on entend bien que le médecin arrive près d'une religieuse noire qui va avoir plusieurs rencontres avec elle, qu'il est toujours présent jusqu'au décès de cette religieuse noire. Et on peut penser que c'est aussi les premiers pas de la psychanalyse qui arrive à travers la littérature.
Oui. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que là, on a affaire à une femme qui est tout à fait révolutionnaire dans sa façon de penser, sa façon de voir, même si on peut penser qu'à un moment, c'est la dépression quelque part qui la guide. Hein, on peut penser que le texte, toute cette histoire, elle est aussi générée par la dépression, mais la mise en forme de ce médecin qui est présent à l'entrée du texte, présent à la sortie, et qui est présent à différentes occasions près de la religieuse, fait penser à une scène d'analyse habituelle de nos jours.
Alors oui, parce qu'on n'a pas encore expliqué la démarche, disons, dramaturgique, la construction,
la construction du roman.
Par son autrice.
Oui, oui. Mais ça c'est très traditionnel à l'époque. C'est très souvent, dans les romans de Benjamin Constant, c'est pareil. C'est toujours quelqu'un qui a été témoin, qui a rencontré quelqu'un, qui a raconté ses malheurs. Et le témoin transmet l'histoire. Et là, c'est le médecin qui introduit, qui sert de cadre, en fait... de cadre fictionnel à l'histoire. Voilà. Donc la religieuse se confie au médecin. Mais simplement, elle lui dit « Quand je vous en aurai dit assez, peut-être vous saurez me guérir quand j'aurai dit tout ce que j'ai à dire. » Et c'est pour introduire un autre thème qui me paraît très important, qui est celui du secret. Parce qu'il y a vraiment un secret. Et le secret, on ne sait... Il est très présent dans le personnage d'Ourika. Et probablement, il y avait aussi un secret dans la vie de Claire de Duras. Et le secret est peut-être aussi celui de la naissance d'Ourika. Parce qu'après tout, on ne sait pas. Parce que on parle d'Ourika. Claire de Duras parle de sa mère. On parle des femmes, on est entre femmes, mais le père dans l'histoire, On ne sait pas où il est, ni qui il est, ni où il a disparu. Donc, il y a un secret, et l'homme en question, c'est celui avec lequel Ulrika a été élevée, et c'est aussi un secret pour elle qui va lui être révélé, enfin, qui va affleurer. Oh, c'était le second pic, disons, le second moment fort de l'histoire, le moment dramatique de l'histoire, quand elle réalise vraiment qu'est-ce qui la relie à ce presque, j'allais dire demi-frère, c'est pas son demi-frère, mais à ce garçon avec lequel elle a été élevée. Voilà.
Oui, et dont elle tombe amoureuse. Oui, oui. Mais Alain, toi, tu parles d'analyse, c'est parce que bon, elle est au moment où le médecin raconte cette histoire, ben il la rencontre, elle se réfugie dans un couvent, dans la religion, et elle a un regard quand même, une distance par rapport à ce qui lui est arrivé. Donc déjà, elle raconte son histoire à ce médecin, et donc elle a cette distance, ce recul.
Elle raconte l'histoire parce qu'elle finit par avoir confiance dans ce médecin. Elle le dit d'ailleurs. Au début, elle ne parle pas tout de suite. Il lui faut quelques séances, hein, j'utilise le mot séance, presque pour se mettre à table, pour commencer à discuter. Et c'est vrai que... Alors, l'histoire de la psychanalyse, de l'analyse, là, c'est un regard personnel que j'ai sur le texte, hein, c'est peut-être un peu amplifié. Non, n'empêche que c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans cette histoire. Par contre, aujourd'hui, on peut quand même penser, parce que l'année prochaine, on va fêter les 200 ans de l'histoire d'Ulrika.
L'écriture, parution du roman.
Du roman. Hein, on peut penser que 200 ans plus tard, ben, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. C'est vrai qu'on ne va plus les chercher en Afrique, mais ils viennent tout seuls. Par contre, ils ne sont pas mieux acceptés. Et tout ce que je disais tout à l'heure, toute forme de différence aujourd'hui est systématiquement refusée.
Oui, c'est toujours stigmatisant. On va faire une deuxième partie dans l'émission, là, autour de l'antiziganisme. Voilà. Maintenant, il y a ce procédé d'écriture auquel, en quelque sorte, Elisabeth, vous superposez encore un procédé théâtral.
Oui.
Ouais. Pour nous ramener du monde d'aujourd'hui, petit à petit, à travers Marie Plateau, dans l'histoire, dans l'univers d'Ulrika.
Oui, oui. L'idée étant de, en fait, l'objet du spectacle est une comédienne d'aujourd'hui, Marie, qui revisite, qui fait on employait le mot traversée, qui traverse ce roman, cette histoire, qu'il a, on peut imaginer qu'elle vient en scène pour répéter, revoir le texte, et puis petit à petit, elle est le lire. Les interprétations sont possibles.
Ou bien elle est simplement une actrice passionnée par cette histoire et finit petit à petit à s'identifier.
C'est ça, voilà. Et petit à petit, le personnage prend forme et naît et se développe jusqu'à la fin. Et prend le pouvoir. En fait, c'est comme si le personnage prenait le pouvoir sur scène, progressivement. Mais on voit vraiment la comédienne d'aujourd'hui qui est là, qui travaille. Et puis on voit aussi par moments affleurer la femme de lettres du 19e siècle, qui, avec ses feuilles, qui réfléchit. Et puis pourquoi pas la metteuse en scène qui a pensé à tout ça et qui à travers les cheminements peut aussi marquer son influence. Et puis la comédienne
qui se retrouve dans le personnage, bien entendu. La comédienne qui se retrouve dans le personnage.
La femme d'aujourd'hui, l'écrivain, oui. Jusqu'à être aussi l'aristocrate en question.
C'est comme si on faisait aussi, c'est comme une réflexion aussi sur ce qu'est le processus de la lecture, en fait. Oui. C'est-à-dire quand on lit, eh bien, D'abord, on découvre un texte, une écriture, on a un petit peu de mal, on joue avec, on rentre dedans. Progressivement, on s'identifie au personnage et puis on a des moments où on pense à l'auteur et on se dit pourquoi est-ce que l'auteur s'est identifié à ce personnage, et on est davantage plus sur l'écriture et sur les envies de cet auteur de partager cette histoire. Et puis tout d'un coup, on lit et puis on s'arrête et puis on se dit tiens, mais ça c'est mon histoire qui est en train d'être racontée. Et puis donc tout d'un coup, c'est nous qui devenons acteurs et puis, de temps en temps, on compatit avec le personnage et on devient à ce moment-là frère ou sœur du personnage. Et puis tout d'un coup, et c'est tout ça qu'on a essayé avec Elisabeth. C'est vraiment un travail qu'on a fait toutes les deux main dans la main depuis quelques années. Une réflexion qu'on a menée ensemble, c'était de retrouver aussi dans ce travail cette solidarité qu'il y avait pu y avoir entre Claire de Duras et Aurica, qui s'est intéressée à ce personnage, et entre une metteur en scène blanche d'aujourd'hui. Avec une actrice de couleur, par exemple. Oui. Et effectivement, c'est ce même rapport qu'on a essayé de retrouver dans le travail que Claire de Duras a eu à travers l'écriture avec le personnage vivant d'Aurica. Moi, je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage, beaucoup, beaucoup. C'est tout ce qu'elle dit, tout ce que Claire de Duras raconte et tout ce que Elisabeth m'a raconté de sa propre histoire à elle aussi et de son... C'est vrai.
De ma propre différence.
De ma propre différence fait que, comment dire, moi, j'aurais pu aujourd'hui si écrire exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. Il y a même au niveau du travail qu'on a fait dans les... Parce qu'il a bien fallu effectivement qu'on adapte plus ou moins ce texte et on ne pouvait pas le jouer dans son intégralité. Donc on a fait des coupures, on a essayé. Mais ce qu'il en reste, eh bien je pourrais le dire exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'une écriture presque d'une modernité absolument... un texte écrit aujourd'hui. Et avec exactement la même... la même teneur, quoi, la même.
Oui, alors que c'est une écriture extrêmement raffinée, voilà. Presque racinienne, j'allais dire.
On a fait un énorme travail, oui, précisément, qui l'a ramené au siècle d'aujourd'hui.
Et tous les mots qui sont dits sont les mots de Claire de Duras. On n'a fait aucune transformation de texte. On a juste fait des coupures.
Et la cerise sur le gâteau, c'est quand même que tout ça se passe à l'heure de la Révolution française, qui devait quand même changer l'histoire. Et ben, si toute cette histoire avait commencé peut-être une dizaine d'années plus tard, peut-être que l'histoire se serait déroulée un petit peu différemment. Mais en tout cas, ça tombe quand même à un moment de l'histoire où toutes ces impasses-là sont censées s'ouvrir un peu, où il y avait aussi des soulèvements dans les îles, etc., où on commençait à mettre en cause toutes ces histoires d'esclavage. Et on a des récits, un arrière-plan très présent quand même dans le roman.
Oui, très présent, et je pense que c'est toute une génération alors qui a été beaucoup plus marquée, enfin, de mon point de vue, beaucoup plus marquée par la Révolution et par la Terreur qu'on l'imagine maintenant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont tous vu, ils ont tous eu des amis, de la famille, des parents, des grands-parents qui ont été guillotinés quand même. Parce que, évidemment, ça se passe dans un milieu aristocratique. Donc c'est des gens, ils ont connu des gens qui se cachaient, qui s'enfuyaient, et c'est vrai que ça les a profondément marqués. Et en même temps, ils étaient tous... ils avaient tous un idéal des Lumières. C'est-à-dire qu'ils voulaient tous transformer la société et ils se sont heurtés à cette espèce de période de violence extrême. Donc ils étaient vraiment, très, très, très déchirés par ça. Et c'est une génération pour moi. Et c'est peut-être ça, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, mais je me demande si c'est pas ça qui leur a donné cette lucidité qui fait que maintenant, quand on les lit, quand on voit les questions qui se posent, on se dit, mais ça nous parle, quoi, vraiment.
Alors, en tout cas, c'est une très poignante rencontre avec l'histoire, avec notre monde aussi, à travers Marie Plateau, à travers son interprétation, à travers votre travail, qui met tout ça en perspective par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça se passe au théâtre Darius Milhaud. Et puis, l'année prochaine, alors 2024, c'est donc les 200 ans de l'apparition...
C'est 23.
Oui, l'année prochaine, 24.
Non, c'est cette année.
C'est maintenant.
Oui. Ça s'est fait en deux temps. Elle a écrit le texte en 2023. Si, elle l'a lu assez il était écrit, édité
en fin 2023.
Elle a fait une première édition
en 2023.
Et c'est tous ses amis qui lui ont dit il faut absolument le rééditer, voilà. Et en 24.
Mais la première édition a eu lieu en 2023.
Mmh. Oui, la toute première. Oui,
et donc cette année, on va fêter les 200 ans de l'édition
de 2023.
L'édition originale. Oui. Et donc, et d'ailleurs, effectivement, c'est vers la mi-mars, je crois, que Gallimard va donc rééditer
en folio.
En folio. Pour les 200 ans donc de l'édition d'Ourika, toute l'œuvre de Claire de Duras. Oui. Voilà. Et nous jouons Ourika jusqu'au 25 avril au théâtre Darius Milhaud tous les mardis soirs à 19h.
Précise.
Et nous aurons donc le plaisir aussi de faire découvrir au mois de mars. Cette nouvelle édition, puisque nous aurons donc.
Justement, j'espère que les éditions Gallimard vont venir fêter ça avec vous.
On a bien l'intention d'aller les rencontrer, oui, à cette occasion. Oui, tout à fait.
Oui. Donc, allez-y déjà, dès que vous pouvez. C'est tous les mardis à 19h. C'est vraiment formidable, seule en scène de Marie Plateau. C'est touchant, c'est poignant, il y a plein d'émotions et finalement c'est vraiment aussi la découverte probable d'un très très grand texte.
Et ça parle à beaucoup de monde, je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, aux femmes, aux gens de la diversité, des gens de couleur, les gens, ça parle de l'exclusion, c'est, pour les historiens, c'est aussi, comme disait Elisabeth, l'époque de la Révolution, c'est pour les amoureux de la littérature, c'est découvrir une œuvre rare, c'est vraiment une très très grande œuvre, Ourika de Claire de Duras, donc découvrir un auteur ou le redécouvrir, et puis même, effectivement, ce sont les balbutiements de la... C'est une des premières œuvres, de psychanalyse. Oui. Donc, moi, j'ai des amis psychanalystes qui sont venus voir et qui ont été absolument sidérés parce qu'ils ont vu et qui en parlent en ce moment et qui, j'espère, feront venir des collègues parce qu'ils ont très envie de faire venir des collègues. Donc, ça parle vraiment à beaucoup de gens, aux féministes aussi, oui. Parce que vraiment, il y a la cause de la femme au cœur de tout ça. Oui. Toutes les femmes sont concernées. Donc, c'est vraiment un texte, à mon avis, qui peut fédérer beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de
gens. Et ça a été édité dans les années 70 par les éditions des femmes.
Oui. Mmh. Oui.
Et c'est comme ça, je pense, par ce biais-là que moi j'ai découvert, je pense, à peu près à cette époque-là.
Et il a obtenu le label, d'ailleurs, label spectacle recommandé par la LICRA.
En tout cas, ce serait très intéressant que ça reste pas un texte trop confidentiel, oui. Parce qu'il mérite quand même d'être plus largement connu. La pièce aussi, et Marie, dans l'interprétation qu'elle en fait, mérite aussi que ce soit vu, et puis que ça fasse peut-être un peu progresser les mentalités, et que, alors ça, c'est moins sûr. Mais peut-être que si on peut se dire à un moment, de toute façon, comme on dit souvent, moi je suis pas raciste, j'ai même un pote noir, n'empêche qu'il y a encore du chemin à faire, quoi.
Voilà, spectacle recommandé par Radio Libertaire. Merci.
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 Et vous écoutez effectivement Tempête sur les planches sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître, sans publicité de la Fédération anarchiste. Oui, effectivement, il faut aller au théâtre Darius Milhaud pour voir Ourika tous les mardis à 19h. Et ce théâtre se trouve dans le 19e arrondissement, dans l'allée Darius Milhaud. Vous descendez à la porte de Pantin sur la ligne 5 et vous ne vous dirigez non pas là de l'autre côté du boulevard où il y a la Villette. Enfin, c'est de l'autre côté, hein, vous voyez, trottoir opposé de la cité de la musique et la grande halle de la Villette et tout ça. Non, c'est dans l'autre direction et là vous montez la petite rue et vous arrivez. Vous tombez sur le théâtre, sur le début de l'allée Darius Milhaud. c'était la tempête sur les planches d'aujourd'hui, la première honneur d'été de 2023. Restez à l'écoute de Radio Libertaire et faites un tour à la librairie du Monde Libertaire, la librairie que nous appelons tendrement Publico, qui se trouve au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement, et c'est au métro République, Fille du Calvaire ou bien au Bacamp.